Chapitre 38. Une affaire de niveau. Estimant que les carrosses se traînaient, Matt serait bien sorti pour aller aider les chevaux à tirer le sien. Alors que le soleil n'était pas encore complètement levé, les rues grouillaient déjà de monde et de véhicules. Comme toujours, les conducteurs de chariots se frayaient un chemin dans la foule à grand renfort d'imprécations. En échange, ils faisaient une très belle cueillette d'insultes plus ou moins imagées, doguées par des piétons outragés. Sur les canaux, le trafic était tellement dense qu'on aurait pu traverser à pied en passant d'une barge à l'autre. L'activité battant son plein, un bourdonnement assourdissant montait en permanence de la Cité Blanche. Et Boudard semblait vouloir rattraper le temps perdu à cause de la fête des oiseaux, sans compter Haute Chazaline et la fête des Lumières. De fait, le temps pressait, car le lendemain soir ce serait la fête des Braises, suivie deux jours plus tard par le jour de Madine, la fête nationale, qui serait lui-même suivie par la fête de la demi-lune. Si les gens du Sud avaient la réputation méritée d'être de gros travailleurs, c'était sans doute parce qu'ils devaient sans cesse cravacher pour compenser les jours de congé. Festoyer tout le temps étant épuisant, Matt trouvait miraculeux qu'ils aient encore l'énergie de trimer. Les carrosses finirent par atteindre le fleuve, où ils s'arrêtèrent sur un long embarcadère. Après avoir prélevé un morceau de fromage jaune sombre et un quignon de pain, Matt les glissa dans sa poche et cacha le panier de malheur sous la banquette. Il crevait de faim, mais à l'évidence, quelqu'un, dans les cuisines, avait confondu vitesse et précipitation. L'essentiel du menu était composé d'huîtres, mais on avait tout simplement oublié de les faire cuire. Descendant après l'âne, Matt laissa à Beslan et à Naleséan le soin d'aller accueillir et aider les hommes qui descendaient des autres véhicules. Une bonne dizaine de gaillards, le seul kyrénien du lot n'étant même pas vraiment petit, avaient dû s'y entasser, et ils en sortaient avec une évidente raideur. Sa lance sur l'épaule, Matt passa devant l'âne et se dirigea vers le premier carrosse. À présent, Ninevé et Elaine allaient devoir entendre ce qu'elle avait sur le cœur. Et tant pis pour les oreilles indiscrètes. Ne pas lui parler de Mogadien, ni de la mort de deux de ses hommes. Pour sûr, il allait... Se souvenant que l'âne le suivait, une épée au côté, le jeune flambeur révisa ses prétentions à la baisse. La fille héritière, au moins, allait se faire souffler dans les bronches. Déjà sur le quai, Ninevé parlait avec quelqu'un qui n'était pas encore sorti du carrosse.
« Que ça réussira, bien sûr !»
était en train de dire l'ancienne sage-dame.
« Mais qui aurait cru que les Hatta admirés, surtout eux, exigeraient une telle chose, même en privé ?»
Elaine sortit du véhicule, son chapeau à la main.
« Ninevé, si ta nuit a été si merveilleuse que ça, comment peux-tu te plaindre de... »
À cet instant, les deux femmes s'aperçurent que Matt et Lan venaient de les rejoindre. Lan surtout. Rouge comme une pivoine, Ninevé écarquilla les yeux et Elaine se pétrifia, une bottine encore sur le marchepied du carrosse. Puis elle foudroya de regard le champion, comme si elle venait de le surprendre en train de l'espionner. Avec autant de chaleur qu'un piquet de clôture, l'âne regarda Ninevé, qui maîtrisa visiblement une pressante envie d'aller se cacher sous le carrosse, et braqua les yeux sur son homme, comme si personne d'autre n'existait en ce monde. S'avisant que son regard assassin ne servait à rien, Elaine finit de descendre du véhicule, pour laisser passer Réan et les deux guérisseuses qui avaient voyagé avec elle, Tamarla et une certaine Janira, originaire du Saldaïa. N'étant pas du genre à capituler ni à renoncer, Elaine transféra toute son ire sur Matt, en y ajoutant une nuance d'accusation. Le jeune homme secoua la tête et grogna. En règle générale, quand elle était dans son tort, une femme trouvait toujours un pauvre type auquel faire porter le chapeau. Les mâles étant d'une grande honnêteté, le malheureux finissait 9 fois sur 10 par se convaincre qu'il avait fait quelque chose de mal. Qu'il puise dans ses propres souvenirs ou dans ceux qui ne lui appartenaient pas, Matt n'était parvenu à isoler que 2 cas où une femme reconnaissait ne pas être dans le vrai, quand elle voulait quelque chose, ou lorsqu'il neigeait au milieu de l'été. Ninevé saisit sa natte, mais le cœur n'y était pas, et ça crevait les yeux. Renonçant à s'arracher le cuir chevelu, elle se tordit nerveusement les mains.
« Lan, ne va surtout pas croire que je parlais de nos... »
Le champion offrit son bras à sa femme et lui coupa gentiment la parole.
« Nous sommes en public, Ninevé. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Veux-tu bien embarquer avec moi ?»«
Oui !»
s'écria l'ancienne sage-dame, acquiesçant avec tant d'enthousiasme qu'elle faillit en perdre son chapeau à plumes.
« Oui, c'est vrai, en public. »
S'accrochant au bras de l'âne, Ninevé reprit un semblant de contenance. Marchant d'un pas décidé, elle tira quasiment l'âne vers une passerelle d'embarquement. Matt se demanda si la terrible jeune femme était malade. Il adorait voir Ninevé prendre une bonne leçon, mais en général, elle se reprenait en un clin d'œil. Comme les Aes Sedai ne pouvaient pas se guérir elles-mêmes, le jeune homme envisagea de suggérer à Elaine de se charger de son amie. Pour sa part,
Il fuyait la guérison des sœurs autant que la mort ou le mariage, mais tout le monde n'était pas obligé de voir les choses comme lui. Cela dit, il avait d'abord une déclaration bien sentie à faire au sujet des secrets. Ouvrant la bouche, il leva un index vengeur, au moment où Elaine lui enfonçait un des siens dans les côtes, tout en rivant sur lui un regard qui le fit frissonner du bout des oreilles jusqu'à la pointe des pieds.
« Maîtresse Corley, »
dit-elle, sur le ton d'une reine rendant la justice.
« Peux-tu nous expliquer à Nineveh et à moi la signification des fleurs rouges sur le panier que Matt a eu au moins la décence de cacher ?»
Matt aurait parié qu'il battait Nineveh, en intensité de rouge. Non loin de là, Réanne et les autres étaient occupés à nouer leurs chapeaux et à tirer sur le devant de leurs robes, le tic de toutes les femmes du monde dès qu'elles s'asseyaient, se levaient ou faisaient plus de trois pas. Mais si concentrées sur leur tenue qu'elles soient, les guérisseuses lorgnèrent quand même le jeune homme, sans désapprobation dans le regard pour une fois, ni surprise, comme si elles avaient du mal à croire qu'un spécimen comme lui puisse exister. Par le sang et les cendres, il ne s'était pas douté que les fichues fleurs avaient un sens.
« Donc, »
fit Elaine à voix basse, mais avec un profond mépris.
« C'est bien vrai. »
Elle tira sa cape vers elle, pour ne surtout pas être en contact avec Matt.
« Je n'aurais pas cru ça de toi, et tu sais que je te pense capable de presque tout. Nineveh aussi en tombera des nues. Toutes les promesses que j'ai pu te faire sont nulles et non avenues. Pas question de tenir la parole donnée à un homme qui peut harceler ainsi une femme, n'importe laquelle. Et a fortiori, une reine qui lui a offert... Moi, la harceler, elle !»
s'étrangla Matt. Prenant Elaine par les épaules, il la tira à l'écart des carrosses. Les dockers en gilet de cuir vert constellés de taches continuaient à travailler, portant des sacs sur l'épaule, faisant rouler devant eux des tonneaux ou poussant des diables chargés de lourdes caisses. Mais ils avaient fait en sorte de rester à bonne distance des véhicules. Même si la reine d'Altara n'avait guère de pouvoir, quand ses armes s'affichaient sur la portière d'un carrosse, c'était suffisant pour inciter les gens du peuple à la discrétion. En conversant, Nalessean et Beslan guidaient les bras rouges sur le quai. Vanine fermait la marche, un regard noir tourné vers le fleuve. Avouant volontiers ne pas avoir le pied marin, il redoutait sûrement que son estomac se rebelle. Les guérisseuses, massées autour de Réanne, étaient bien trop loin pour entendre. Matt n'en baissa pas moins le ton.
« Tu vas m'écouter cette fois. Cette reine doit avoir oublié le sens du mot « non ». Quand je le lui ai dit, elle m'a ri au nez, elle m'a affamé puis fait maltraiter. Bref, elle m'a chassé comme un vulgaire cerf. Elle a plus de mains qu'une demi-douzaine de femmes normales. Sais-tu qu'elle a menacé de me faire déshabiller par ses servantes si je ne la laissais pas... »
Soudain, Matt mesura l'énormité de ce qu'il était en train de dire, et il prit conscience de la personne à qui il débitait tout ça. Réussissant à fermer la bouche avant d'avoir avalé une mouche, il baissa les yeux sur la hampe de sa lance et étudia un des corbeaux gravés dessus.
« Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas comprendre, sans doute parce qu'on t'a tout raconté à l'envers. »
Sous les larges bords de son chapeau, Matt risqua un coup d'œil furtif à Elaine. Les joues un peu roses, la fille héritière parvint à garder tout son contrôle.
« Il semble en effet qu'il y ait un malentendu. C'est... Eh bien, Tailin a très mal agi. »
Les lèvres d'Elaine semblèrent s'attirer très légèrement.
« As-tu déjà pensé à t'entraîner à sourire devant une glace, Matt ?»«
Pardon ?»«
J'ai entendu dire, par des sources très fiables, que les jeunes femmes se livrent à cet exercice pour attirer le regard des rois. »
La voix d'Elaine vibra bizarrement, et ses lèvres s'attirèrent encore plus.
« Tu devrais aussi essayer de battre des cils. »
Se mordant la lèvre inférieure, la fille héritière se détourna, les épaules secouées de spasmes, et s'éloigna, sa cape flottant au vent derrière elle. Avant d'être hors de portée d'oreille, elle marmonna quelque chose comme « l'arroseur enfin arrosé », puis elle éclata de rire. Réanne et les guérisseuses emboîtèrent le pas à Elaine, des poules suivant un poussin pour changer un peu. Sur leur pont, les quelques marins torse nus qui s'affairaient sur les cordages s'interrompirent et saluèrent respectueusement l'étrange procession. Matt retira son chapeau et envisagea sérieusement de le jeter par terre, puis de le piétiner. Les femmes, comment avaient-ils pu être assez bêtes pour s'attendre de la compassion? Bon sang, ce qu'il aurait aimé étrangler cette maudite fille héritière. Et Nineveh aussi, juste pour le principe. Hélas, c'était hors de question. D'abord parce qu'il avait promis à Rand, puis il y avait les dés, qui ne cessaient de rouler dans sa tête. Enfin, une rejetée traînait peut-être dans les environs. Après avoir remis son chapeau, le vissant sur sa tête, Matt descendit le quai d'un pas vif, dépassa les poules, pardon, les guérisseuses, et rattrapa Elaine. Elle tenta de cesser de rire, mais chaque fois qu'elle posait les yeux sur lui, ça repartait pour un tour. Les joues roses, les lèvres qui s'étirent et tout le toutim. Matt regarda droit devant lui. Maudite femme, fichue promesse! Retirant de nouveau son chapeau, il fit glisser autour de sa tête la lanière de cuir du médaillon en forme de tête de renard. Puis il brandit le bijou en direction d'Elaine.
« Ninevé et toi, allez devoir décider laquelle des deux le portera. Mais j'entends le récupérer en quittant Eboudar. C'est compris ? Au moment du départ, je... »
Matt s'avisa soudain qu'il parlait tout seul. Réan et les autres massés dans son dos, Elaine le regardait avec des yeux ronds comme des soucoupes.
« C'est quoi le problème ? Oui, je vois. Eh bien, je sais tout au sujet de Mogadienne. »
Un marin maigrichon, des anneaux de cuivre incrustés de pierres rouges aux oreilles, se redressa vivement en entendant ce nom. Oublia la mare qu'il était en train de défaire, recula et bascula dans l'eau avec un grand plouf.
« Essayez de me cacher ça !»
continua Matt, se fichant de qui entendait.
« Et la mort de deux de mes hommes, après toutes vos promesses ! Mais nous réglerons ça plus tard. Moi aussi j'ai donné ma parole. Celle de vous garder en vie toutes les deux. Si Mogadienne se montre, elle s'en prendra à vous. Donc, voilà une bonne protection. »
Matt tendit de nouveau le médaillon à la fille héritière. Stupéfaite, elle secoua la tête, puis se tourna vers Réan et lui murmura quelques mots. Attendant que cette dernière ait entraîné les guérisseuses avec elle, les guidant jusqu'à Ninevé, qui patientait au pied de la passerelle d'embarcation d'un bateau, elle prit enfin le bijou et le fit tourner entre ses doigts.
« As-tu idée de ce que j'aurais donné pour pouvoir étudier ce médaillon ? »
demanda-t-elle.
« Même une vague idée ?»
Bien que grande pour une femme, Elaine devait lever la tête pour regarder Matt. Là, elle tendait le cou, comme si elle le voyait pour la première fois.
« Tu es un homme dangereux, Matt. Lini dirait que je me répète, mais c'est la stricte vérité. »
Elaine tendit une main, ôta son chapeau à Matt, car il l'avait déjà remis, et lui passa la lanière de cuir autour du cou. Puis elle glissa la tête de renard sous sa chemise et la tapota gentiment, avant de rendre son couvre-chef au jeune homme.
« Je ne porterai pas cette protection, alors que Ninevé et Avienda n'en ont pas. Et je suis sûr qu'elles auraient la même réaction. Tu en as besoin, Matt. Comment tenir ta promesse si Mogadienne te tue ? Mais à mon avis, elle n'est plus là. Elle pense avoir éliminé Ninevé, et je ne serais pas surprise que ça lui ait suffi. Sois quand même prudent. Ninevé affirme qu'une tempête se prépare, et elle ne parle pas de ce vent. Matt, désolé de m'être moqué de toi. Parfois, j'oublie mon devoir envers mes sujets. Matrim Cotton, tu en fais partie, et tu comptes parmi les meilleurs. Je ferai en sorte que Ninevé sache ce qui se passe exactement entre Tailin et toi. Qui sait, nous pourrons peut-être t'aider. Non, je voulais dire... oui, enfin, que j'embrasse une maudite chèvre si je sais ce que je voulais dire. J'aimerais presque mieux que vous ne sachiez pas la vérité.
Ninevé et Elaine parlant de lui avec Tailin autour d'une infusion. Pourrait-il supporter ça ? Oserait-il encore les regarder en face après ? Mais sans aide, il... coincé entre un loup et un ours, sans possibilité de fuir.
« Collier de mouton et oignons mitonnés au beurre »
jura-t-il, avec l'espoir secret qu'Hélène ne lui reproche. Un bon moyen de changer de sujet. La fille héritière remua les lèvres en silence, comme si elle répétait ce qu'il venait de dire. Mais il avait la berlue, c'était sûr.
« Je comprends, »
dit-elle enfin, et ça semblait sincère.
« Viens, Matt. Nous ne pouvons pas rester ici jusqu'à la fin des temps. »
Sonné, Matt regarda la jeune femme reprendre son chemin en soulevant l'ourlet de sa robe. Elle comprenait, sans ajouter un commentaire acide ou une remarque assassine. Et voilà qu'il était son sujet, un des meilleurs en plus de tout. En tapotant son médaillon, le jeune flambeur suivit Elaine. Avant la surprenante réaction de la fille héritière, il s'était attendu à une dure bataille pour récupérer son bien. Même s'il vivait aussi longtemps que deux Aes Sedai réunis, il ne comprendrait jamais les femmes. Et les nobles étaient de loin les pires. Quand il atteignit la passerelle, Elaine avait déjà embarqué et les rameurs, deux types costauds, utilisaient déjà leurs rames pour pousser le bateau loin du quai. Alors qu'Elaine était en train de guider Rohan et les autres jusqu'à la cabine, l'âne avait pris place à la proue avec Ninevé. De l'autre bateau, où se trouvaient tous les hommes à part le champion, Beslan appela le jeune flambeur, qui sauta souplement à bord.
« Ninevé a prétendu qu'il n'y avait pas de place pour nous, »
expliqua Nalesséan, alors que les deux bateaux fendaient déjà les eaux du fleuve Eldar.
« Nous aurions été serrés comme des sardines, a-t-elle dit. »
Beslan éclata de rire, puis regarda autour de lui. Assis près de la porte de la cabine, Vanin, les yeux fermés, essayait sans doute de se convaincre qu'il était n'importe où, mais pas sur l'eau. Arnan et Tad Kandel, un andorien, malgré sa peau aussi mate que celle des rameurs, étaient montés sur le toit de la cabine. Les autres bras rouges, accroupis sur le pont, faisaient de leur mieux pour ne pas gêner les rameurs. Pas un seul homme n'était entré dans la cabine,
attendant sans doute de savoir si Matt, Naleséan et Beslan entendaient se l'approprier.
Matt se campa à la proue et observa le bateau des femmes qui les précédaient. Le vent faisait onduler les eaux noires du fleuve. Son foulard subissait lui aussi ses assauts, et le jeune homme devait s'accrocher à son chapeau. Que fabriquait donc Ninévé? Les 9 autres femmes étaient dans la cabine, abandonnant le pont à l'ancienne sage-dame et au champion. Les bras croisés, Lan écoutait sa compagne, qui faisait de grands gestes, comme si elle lui expliquait quelque chose. Sauf que ce n'était guère dans ses habitudes. Pas du tout, aurait d'ailleurs été plus précis que « guerre ». Quoi qu'elle fît, Ninévé dut très vite changer d'occupation. Sur le fleuve où les bateaux du peuple de la mer étaient au mouillage, une petite embarcation avait vite tendance au roulis. Malgré les conditions plutôt clémentes, Matt eut l'impression de n'avoir jamais été autant secoué durant ce type de navigation. Très vite, Ninévé dut se pencher au bastingage, l'âne la tenant par les épaules, pour vider son estomac retourné. Cette vision rappela à Matt qu'il crevait de faim. Après avoir calé son chapeau sous un bras, il sortit le précieux petit morceau de fromage.
Beslan, tu crois que cette tempête éclatera avant que nous soyons revenus du Rahad ?
Matt mordit dans le fromage au goût amer. À Eboudar, on en trouvait une 50aine de variétés, toutes mangeables. À la proue, Ninévé continuait de vomir. Elle avait dû se goinfrer ce matin.
Si nous sommes coincés dans ce trou à rats, je ne vois pas où nous pourrons passer la nuit. Pas de tempête,
fit Beslan en s'asseyant sur le bastingage.
Ce sont simplement les vents d'hiver, ce que nous appelons les vents du commerce. Ils soufflent 2 fois par an, à la fin de l'hiver et de l'été. Mais pour qu'il y ait une tempête, il faut qu'il soit beaucoup plus fort.
Il jeta un regard noir en direction de la baie.
2 fois par an, ces vents du commerce nous amenaient, des bateaux, venus du Tarabon et de la Raddoman. Je me demande si je reverrai ça un jour. La route Isr...
commença Matt. Il faillit s'étrangler avec un fragment de fromage. Par le sang et les cendres. Voilà qu'il parlait comme un vieux type, en train de réchauffer ses os douloureux devant une cheminée. S'inquiéter d'être obligé de faire descendre les femmes dans une auberge qu'il ne connaissait pas. Lui. Un an plus tôt, 6 mois même, il aurait choisi l'établissement le plus mal famé, et se serait réjoui de les voir rouler de gros yeux indignés.
Au fond, tu auras peut-être de quoi t'amuser dans le Rahad,
dit-il à Beslan.
Au minimum, quelqu'un essaiera de nous shipper une bourse, ou de voler le collier d'Elaine.
C'est peut-être ce qu'il lui fallait, un peu d'action, pour chasser de sa bouche le goût infect de la respectabilité. Respectabilité. Quel mot pouvait être plus mal adapté à Matt Cotton? S'il commençait à trouver du charme aux convenances, était-ce parce que Tylee ne terrorisait plus encore qu'il le croyait? Une bonne bagarre, oui. Voilà qui lui ferait du bien. C'était apparemment absurde, parce qu'il était radicalement du genre à prendre la tangente quand il y avait de la violence dans l'air, mais...
Matt,
répondit Beslan.
Si quelqu'un peut trouver ce que tu cherches, c'est bien toi, mais nous serons avec 7 guérisseuses, mon vieux. Avec une seule près de toi, tu pourrais gifler un type, même dans le Rahad, sans qu'il ose protester ou simplement froncer les sourcils. Quant aux femmes, où est le plaisir d'en embrasser une, quand on ne risque pas de recevoir un coup de couteau en retour?
Que la lumière brûle mon âme,
marmonna Naleséan.
On dirait que je me suis tiré du lit à l'aube, pour m'ennuyer toute la matinée.
Beslan eut un hochement de tête compatissant.
Si nous avons de la chance, cependant, de temps en temps, la garde civile s'aventure à envoyer des patrouilles dans le Rahad. Pour coincer les contrebandiers, ces hommes retirent leur uniforme. Comme si une dizaine de types armés jusqu'aux dents pouvaient passer inaperçus dans un quartier pareil. Ces malheureux sont toujours stupéfiés quand les contrebandiers leur tendent une embuscade. Ce qui arrive presque chaque fois. Si la chance de taverne de Matt est avec nous, on passera pour des gardes. Et des contrebandiers nous attaqueront peut-être, avant d'avoir vu les femmes à la ceinture rouge.
Matt foudroya les 2 hommes du regard. Au fond, le genre d'amusement que recherchait Beslan ne lui convenait peut-être pas. En outre, il en avait plus qu'assez des femmes armées d'un couteau. À ce sujet, Ninévé était toujours penché au bastingage, ce qui lui apprendrait à baffrer comme 4. Ayant fini le fromage, Matt s'attaqua au pain, en essayant d'oublier les dés qui continuaient à rouler dans sa tête. Au fond, une excursion sans problème lui convenait tout à fait. Un rapide aller et retour, puis un départ tout aussi prompt des Boudards. Le Rahad se révéla fidèle à ses souvenirs et aux pires craintes de Beslan. Avec le vent, monter les marches étroites du débarcadère fut assez périlleux, et après cet exercice, les bourrasques se firent plus violentes encore. Comme de l'autre côté du fleuve, il y avait des canaux partout, mais les ponts, ici, étaient tristement ordinaires et en très mauvais état.
Quant au canot, la vase y était assez présente pour que des gamins barbotent sans perdre pied dans le peu d'eau qui restait. Bien entendu, il n'y avait pas de barge en vue. Dans le Rahad, les bâtiments massifs à la façade délabrée se serraient les uns contre les autres, des deux côtés de rues ou de ruelles étroites aux pavés le plus souvent éventrés. Dans ces voies où le soleil ne parvenait pas à pénétrer, personne ne se donnait plus la peine d'enlever les fragments de plâtre qui jonchaient le sol. À part quand une maison était vide, ses fenêtres évoquant alors les orbites creuses d'une tête de mort, du linge minable pendait presque partout, laissant suinter un jus noirâtre qui en disait long sur les conditions de vie dans cette partie de la ville. Comme pour confirmer ce sentiment, la puanteur était atroce. Le contenu des pots de chambre, ajouté à d'autres immondices, attirant 100 fois plus de mouches que de l'autre côté du fleuve, où on n'en manquait pourtant pas. Repérant la porte à la peinture bleue toute pelée de la couronne d'or des cieux, Matt frissonna à l'idée de devoir descendre dans cette auberge avec une horde de femmes, au cas où la tempête éclaterait malgré les prévisions de Beslan. Quelques secondes plus tard, il frissonna de nouveau, quand il prit conscience qu'il venait de frissonner. Quelque chose de bizarre lui arrivait, et il n'aimait pas ça du tout. Flanquant Réan et suivi par les autres femmes, Nineveh et Elaine insistèrent pour prendre la tête de la colonne. La main sur la poignée de son épée, et les yeux sans cesse en mouvement, Lan se plaça juste derrière l'ancienne sage-dame. À la vérité, même ici, il aurait suffi, tout seul, à protéger une vingtaine de jeunes beautés de 16 ans portant des sacs remplis d'or. Matt insista quand même pour que Vanine et les autres ouvrent l'œil et le bon. Sans avoir eu besoin de cette incitation, le voleur de chevaux et filou repenti se tenait si près d'Elaine qu'on aurait aisément pu le prendre pour son champion, dans le genre obèse et rien des Cathy, mais bon. Beslan réagit aux ordres de Matt en roulant de gros yeux, et Naleséan, tout en se grattant la barbe, marmonna qu'il regrettait vraiment d'avoir quitté son lit. Dans des vestes miteuses et souvent sans portée de chemise, des types arborant de gros anneaux dans les oreilles et des bagues dont la verroterie brillait de mille feux arpentaient fièrement les rues, un ou deux couteaux glissaient à leur ceinture. Les mains ne s'éloignant jamais beaucoup de leurs armes, ils semblaient attendre le premier regard de travers d'un passant pour déclencher les hostilités. Plus sournois, d'autres détrousseurs ou assassins potentiels se tapissaient dans les ombres, passant furtivement d'une porte cochère à l'autre, à la manière des chiens aux flancs creux, qui grognaient parfois au fond de venelles presque trop étroites pour qu'un homme de corpulence normale puisse s'y engager. L'ennui avec ces voyous-là, eux aussi lourdement armés, c'est qu'on ne pouvait pas prévoir lequel détalerait et lequel frapperait en cas de grabuge. En règle générale, cependant, tous ces mâles paraissaient presque inoffensifs comparés aux femmes qui rôdaient dans le Rahad. En robe et limée, mais lestées de 2 fois plus de bijoux que leurs homologues masculins, elles paradaient encore plus outrageusement qu'eux. Bien entendu, elles aussi avaient des couteaux, et elles guettaient la première occasion de s'en servir. En résumé, dans le Rahad, aucune personne vêtue de soie ne pouvait espérer marcher plus de 10 pas sans se faire fracasser le crâne. Après cette mésaventure, se réveiller nu comme un ver au sommet d'un tas d'ordures, dans une ruelle sombre, pouvait passer pour un sacré coup de chance. Après tout, ça valait mieux que de ne pas se réveiller du tout. Envoyés par leur mère, au cas où les guérisseuses auraient la gorge sèche, des gamins jaillissaient de presque toutes les portes, offrant des chopes et des gobelets ébréchés aux ceintures rouges. Ébahis de voir 7 guérisseuses ensemble, des pillards au visage couvert de cicatrices et aux yeux de prédateurs s'inclinaient poliment et proposaient leur aide, demandant même s'il y avait quelques lourds fardeaux à porter. Parfois tout aussi couvertes de cicatrices qu'eux, leurs regards susceptibles d'intimider jusqu'à Tailin, des femmes se fendaient de révérences maladroites et offraient d'indiquer toutes les directions dont les visiteuses pouvaient avoir besoin. Pour que tant de guérisseuses soient ici, fallait-il comprendre que quelqu'un avait commis une indélicatesse à leur égard? Dans ce cas, le sous-entendu était limpide. Tamarla et ses compagnes n'auraient pas besoin de se donner de la peine si elles mentionnaient simplement le nom du ou des coupables. Cela dit, tous ces gens foudroyaient du regard les hommes qui accompagnaient les guérisseuses, à l'exception de Lan, que même les plus arrogants et les plus endurcis renonçaient très vite à fixer. Bizarrement, il en allait de même pour Vanine. En revanche, quelques hommes grognèrent à l'intention de Beslan et de Naleséan, enclins à reluquer un peu trop les décolletés des femmes des Boudards. Sans comprendre pourquoi, Matt récolta lui aussi quelques grognements. Sûrement pas parce qu'on l'avait surpris à contempler une belle poitrine, car lui, il savait se rincer l'œil discrètement. Parce qu'elle ne portait pas de ceinture rouge, mais était sous la protection des guérisseuses, Nineveh et Elaine jouissaient d'une paix royale, malgré leur tenue affriolante. Même chose pour Réan. Beslan n'avait pas menti. Grâce aux 7 femmes, Matt aurait pu vider sa bourse sur les pavés, et personne ne lui aurait volé une piécette. Et s'il lui avait pris la fantaisie de pincer les fesses des passantes, elles auraient peut-être frisé la crise d'apoplexie, mais quand même fini par passer leur chemin.
Quelle promenade agréable,
marmonna la Anne.
Avec des choses si intéressantes à voir et des parfums enivrants.
Matt, t'ai-je dit que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit?
Tu veux mourir dans ton lit?
Répliqua le jeune flambeur. Ils auraient tous pu faire la grasse matinée, pour ce qu'ils étaient utiles ici. Agacé, Nalessehan eut un soupir indigné. Beslan rit, mais il avait sûrement mal compris la phrase de Matt. Alors qu'il semblait devoir errer dans le Raha jusqu'à la fin des temps, Réan s'arrêta soudain devant un bâtiment délabré, en tout point semblable aux autres. La veille, Matt avait suivi une femme, jusqu'à cet édifice abandonné où ne vivaient que des rats, les seuls habitants susceptibles de ne pas pendre du linge aux fenêtres.
« C'est là !»
dit Réan. Elaine leva lentement les yeux jusqu'à voir le toit du bâtiment.
« 6 !»
murmura-t-elle, très satisfaite.
« 6 !»
soupira Nineveh. Comme si elle compatissait, la fille héritière lui tapota gentiment le bras.
« En réalité, »
dit-elle,
« je n'en étais pas si sûre que ça. »
Nineveh sourit, puis ce fut à son tour de tapoter le bras de son amie. Matt ne comprit pas un traître mot de ce dialogue. Oui, le bâtiment avait 6 niveaux, et alors? Parfois, les femmes se comportaient vraiment bizarrement, plus souvent qu'à leur tour en réalité. À l'intérieur de la bâtisse, un long couloir couvert de poussière s'enfonçait dans une pénombre rien moins qu'engageante. La plupart des ouvertures avaient depuis longtemps perdu leurs portes, les autres étant protégées par de simples planches. Environ au tiers de la longueur du couloir, une cage d'escalier permettait d'accéder au niveau supérieur. La veille, Matt était passé par là, suivant les empreintes dans la poussière. Quant aux ouvertures, certaines devaient donner sur des corridors latéraux, pas sur des pièces. Mais il n'avait pas pris le temps d'explorer tout ça. À l'évidence, cependant, le bâtiment était trop large et trop profond pour être desservi par un seul couloir, et pour avoir une seule entrée.
« Allons, Matt !»
dit Nineveh, quand il eut envoyé Arnan et la moitié des bras rouges, localiser la deuxième entrée et la surveiller.
« Allons, Matt !» Tu ne te rends pas compte que c'est une précaution inutile ?
Pour qu'elle soit mielleuse ainsi, Elaine avait dû lui dire la vérité au sujet de Tailin. Pas de quoi adoucir l'humeur de Matt, cela dit. Primo, il aurait voulu que personne ne sache. Et secondo, ne servir à rien lui taper sur les nerfs. Pourtant, les dés roulaient toujours dans sa tête.
Qui sait ? Mogadien aime peut-être les portes dérobées ?
Lança-t-il, perfide. Des couinements montèrent du bout du couloir, et l'un des compagnons d'Arnan pesta à voix haute contre les rats.
« Tu le lui as dit ?»
s'écria Nineveh à l'intention de l'âne, qui la suivait comme son ombre.
« Nineveh !»
intervint Elaine.
« Ce n'est pas le moment de commencer une dispute. La coupe des vents est là-haut. »
Une petite boule lumineuse apparut soudain devant la fille héritière. Sans attendre de voir si Nineveh la suivait, elle releva l'ourlet de sa robe et s'engagea dans l'escalier. Avec une vivacité surprenante pour un homme de son poids, Vanin lui emboîta le pas, aussitôt suivi par Réan et la plupart des guérisseuses. Soumeko et Yain, une grande femme au teint mat très joli malgré de petites rides au coin des yeux, hésitèrent un instant, puis décidèrent de rester avec Nineveh. Si l'ancienne sage-dame Elan ne lui avait pas barré le chemin, Matt aurait déjà été en train de gravir les marches.
« Nineveh, tu veux bien me laisser passer ?»
Après tout, il méritait d'être présent quand on découvrirait cette maudite coupe.
« Nineveh !»
Concentrée sur l'âne, la jeune femme semble avoir oublié l'existence du reste du monde. Matt échangea un regard avec Beslan, qui sourit et s'accroupit, dos contre un mur. Korevin et les autres bras rouges l'imitèrent. Nalessehan resta debout, mais il bâilla sans décrocher la mâchoire. Une erreur dans un endroit si poussiéreux. Résultat, une quinte de toux, qui força l'officier à se plier en deux, le visage presque bleu. Cet incident ne parvint pas à distraire Nineveh. Lâchant sa natte, dont elle s'était emparée par réflexe, elle souffla.
« Je ne suis pas en colère, Lan. »
« Bien sûr que si. Mais il fallait que je le lui dise. »«
Nineveh ! Nineveh ! »
insista Matt.
« Lan ! »
Aucun des deux ne daigna lui accorder un regard.
« Lan, Mandragoran, je le lui aurais dit moi-même, dès que je me serais senti prête à le faire. »
Nineveh ferma la bouche. Mais ses lèvres continuèrent de frémir, comme s'il récitait une prière.
« Je ne vais pas me mettre en colère contre toi. »
Une phrase qu'elle semblait adresser à elle-même autant qu'à l'âne. Très calmement, elle repoussa sa natte derrière son épaule, ajusta la position de son chapeau bleu, puis croisa les mains.
« Si tu le dis,
souffla l'âne. L'ancienne sage-dame sursauta.
« Ne prends pas ce ton avec moi !»
exposa-t-elle.
« Je viens de te dire que je ne suis pas en colère. Tu es sourd ? Nineveh, par le sang et les cendres ! L'âne ne pense pas que tu es en colère. Et moi non plus, si tu veux le savoir. »
Par bonheur, à force de fréquenter les femmes, Matt avait appris à mentir sans que ça se voie.
« Puisque c'est clair pour tout le monde, on pourrait peut-être monter et aller chercher cette maudite coupe des vents. »«
Une très bonne idée !»
lança une voix de femme venant de la porte d'entrée.
« Si nous montions tous, pour faire une surprise à Elaine ?»
Matt n'avait jamais vu les deux femmes qui avancèrent d'un pas décidé dans le couloir, mais il savait reconnaître des Aes Sedai quand il en voyait. Celle qui venait de parler était aussi froide et sèche que sa voix, et sa compagne se distinguait par sa multitude de tresses brunes, ornées de perles de couleur. Une bonne vingtaine de costauds armés d'un couteau ou d'un gourdin se pressaient derrière les deux sœurs. Matt serra très fort la hampe de sa lance. Les ennemis aussi, il savait les reconnaître quand il les rencontrait. Contre sa poitrine, la tête de renard devint soudain froide. Quelqu'un s'était connecté au pouvoir. Les deux guérisseuses se fendirent d'une révérence dès qu'elles aperçurent les Aes Sedai. Habituée elle aussi à reconnaître les ennuis, Nineveh se rembrunit, l'air à la fois consterné et penaude. Dans son dos, Matt entendit le bruit caractéristique d'une épée qu'on dégaine. Bien entendu, il ne se retourna pas pour voir qui avait pris cette judicieuse initiative. Pas l'âne, en tout cas, qui était toujours là, tendu comme un léopard prêt à bondir.
« Des sœurs de la Janoire, »
dit Nineveh.
« Falion Boda et Ispan Shephar, coupables de meurtre à la tour, et de bien pire depuis. Ce sont des suppôts de ténèbres, et elles viennent de m'isoler de la source avec un bouclier. »
Les deux sœurs continuèrent d'avancer sans crainte.
« Ispan, as-tu déjà entendu de telles absurdités ?»
demanda la Aes Sedai au long visage. Cessant de faire la grimace à cause de la poussière, la nommée Ispan gratifia Nineveh d'un rictus.
« Ispan et moi, nous venons de la Tour Blanche, alors que Nineveh et ses amis se sont révoltés contre la chair d'Amerlin. Elles seront sévèrement punies pour ce crime, ainsi que tous ceux qui les ont aidés. »
Très surpris, Matt comprit que cette Falion ne savait pas tout, les prenant, l'âne, lui et tous les autres, pour des gros bras engagés pour l'occasion. Falion sourit à Nineveh. En comparaison, un blizzard aurait paru chaleureux.
« Quand nous t'aurons ramené, ma fille, je connais quelqu'un qui sera ravi de te voir, une femme qui te croit morte. Bien, tous les autres, vous devriez partir. Ce sont des affaires entre Aes Sedai. Mes hommes vous escorteront jusqu'au fleuve. »
Sans cesser de fixer Nineveh, Falion fit signe à ses gros bras d'avancer. L'âne passa à l'action, sans dégainer sa lame, car contre des Aes Sedai, elle ne lui aurait servi à rien. Même comme ça, il n'avait pas une chance. Mais fidèle au léopard qui se tapissait en lui, il avait décidé de bondir. En plein vol, il grogna, comme s'il venait de recevoir un coup. Mais il atteignit quand même ses cibles, expédiant les deux sœurs noires au sol avec lui. Dès cet instant, l'enfer se déchaîna. L'âne se redressa sur les genoux et les mains, puis secoua la tête pour s'éclaircir les idées. Avançant, un des types leva son gourdin cerclé de fer afin de lui fracasser le crâne. Alors que Beslan, Nalesehan et les cinq bras rouges faisaient face aux autres brutes, Matt transperça avec sa lance le torse de l'agresseur du champion. Se relevant sur des jambes encore mal assurées, l'âne dégaina son arme et éventra un des colosses. Dans les trois couloirs, jouer de la lance ou de l'épée n'était pas facile. Mais cet élément se révéla également à la faveur des défenseurs, car leurs adversaires ne pouvaient pas profiter de leur supériorité numérique dans un espace si exigu. Combattant à un contre un, ou presque, Matt et ses compagnons ne risquaient pas d'être submergés. De plus, leurs adversaires se gênaient mutuellement, alors qu'ils parvenaient à harmoniser leur défense. Les deux sœurs noires et Nineveh se tenaient dans ce qui semblait être des zones protégées. Et qu'ils l'étaient, car elles y veillaient en personne. Un bras rouge originaire d'Andorre et sec comme un coup de trique faillit percuter Falion. Mais au dernier moment, il vola dans les airs et renversa deux solides suppôts de ténèbres avant de s'écraser contre un mur et de glisser lentement sur le sol. L'arrière de son crâne laissant sur le plâtre une traînée rouge qui n'augurait rien de bon. Se faufilant parmi les défenseurs, un chauve aux épaules monstrueuses bondit sur Nineveh, un couteau au poing. Il cria quand ses pieds se soulevèrent du sol, et se tut lorsque sa tête, quand il retomba, vint le percuter avec un bruit sourd. À l'évidence, Nineveh n'était plus isolée de la source. Même si la tête de renard glacée sous sa chemise ne suffisait pas à prouver que les deux sœurs noires et l'ancienne sage-dame se livraient à un duel à base de pouvoir, la façon dont elle se défiait du regard, oubliant tout ce qui se déroulait autour d'elle, ne laissait aucun doute à ce sujet. Couteau au poing, les guérisseuses, horrifiées, regardaient cet affrontement qui les laissait sans voix et sans réaction.
« Battez-vous !»
leur cria Nineveh. Elle les regarda du coin de l'œil, sans perdre de vue Phalion et Hispan.
« Seul, je n'y arriverai pas! Si vous ne luttez pas, elles vous tueront! Vous savez ce qu'elles sont !»
Les guérisseuses en restèrent bouche bée, comme si on venait de les inciter à cracher au visage de leur reine. En plein cœur de la bataille, Hispan éclata d'un rire mélodieux. Comme en écho, un terrible cri retentit dans la cage d'escalier. Nineveh tourna les yeux en direction de ce hurlement. Soudain, elle tituba, puis sa tête partit en arrière, comme celle d'un blaireau blessé, et elle eut un regard furieux qui aurait dû faire détaler Phalion et Hispan, si elles avaient eu une once de bon sens. Ébranlée, Nineveh eut quand même la force de lancer un regard angoissé à Matt.
« On a canalisé le pouvoir en haut, »
souffla-t-elle.
« Ça tourne mal. »
Matt hésita. Selon toute probabilité, Elaine avait seulement vu un rat. Oui, selon toute probabilité. Le jeune homme réussit à dévier un couteau qui visait ses côtes, mais il ne put pas riposter avec son achat d'oreille, car il manquait de place pour la manipuler. Frappant sous le bras droit de son ami, Beslan transperça le cœur du suppôt des ténèbres.
« S'il te plaît, Matt !»
implora Nineveh.
« S'il te plaît !»
Supplier n'était vraiment pas dans ses habitudes. En temps normal, elle aurait préféré se trancher elle-même la gorge. Avec un juron, Matt se dégagea de la bataille, s'engouffra dans l'escalier et gravit les marches à toute vitesse dans l'obscurité, car il n'y avait pas l'ombre d'une fenêtre. Si ce n'était qu'un rat, Elaine allait l'entendre. Déboulant au dernier niveau dans un couloir presque aussi sombre que l'escalier, puisque pourvu d'une seule fenêtre, Matt découvrit une scène cauchemardesque. Des femmes gisaient un peu partout sur le sol, Elaine faisant partie du lot, le dos appuyé contre un mur et les yeux fermés. Tombée à genoux, du sang lui coulant du nez et des oreilles, Vanine essayait désespérément de se relever en griffant le plâtre d'un mur. Dès qu'elle l'aperçut, la dernière femme encore debout, Janira, se précipita vers Matt. Jusque-là, elle le faisait penser à un faucon, à cause de son nez crochu et de ses pommettes creuses. Mais là, elle ressemblait à s'y méprendre à une souris, pourchassée par un oiseau de proie.
« Aide-moi »
cria-t-elle à Matt, au moment où un homme l'attrapait par derrière. En veste grise, l'agresseur était un type des plus ordinaires. Un peu plus vieux que Matt, de la même taille et d'une corpulence comparable, il souriait et ne changea pas d'expression tandis qu'il prenait à deux mains la tête de Janira, puis lui imprimait une violente torsion. Le son d'une nuque qui se brise, songea vaguement Matt, ressemblait à celui d'une branche qui casse. Son sourire devenu quasiment extatique, le tueur lâcha le cadavre de Janira et le regarda glisser lentement sur le sol. À la lumière de deux lanternes, quelques hommes, derrière Vanine, tentaient de forcer une porte dont les gonds rouillés grinçaient atrocement. Sans leur accorder beaucoup d'attention, Matt regarda le corps de Janira, puis tourna la tête vers Elaine. Il avait promis de la ramener saine et sauve à Rand. Oui, promis. Hurlant de rage, il se jeta sur le tueur, sa lance brandie. Par le passé, Matt avait vu des Myrdraal bouger. Eh bien, même si c'était difficile à croire, cet homme-là était encore plus rapide qu'eux. Semblant disparaître alors que la lance allait le transpercer, il se jeta en réalité sur le côté, saisit la hampe de l'arme au vol, pivota et envoya Matt valdinguer à 6 pas de là. Quand il percuta le sol dans un petit nuage de poussière, Matt eut le souffle coupé par l'impact. Bien entendu, lors de son vol plané, il avait lâché sa lance. Inspirant à fond, il se releva, la tête de renard pendant par la chancrure de sa chemise, et dégaina un de ses couteaux. Alors qu'il se relançait à l'assaut du tueur, il vit Nalesséan apparaître à son tour en haut de l'escalier. Désormais, si rapide qu'il soit, le maudit massacreur de femmes était fichu. À côté de ce type, un Myrdraal serait passé pour un paralytique. Comme s'il n'avait pas d'eau dans son corps pour le ralentir, il esquiva l'attaque de Nalesséan et, dans le même mouvement, le saisit à la gorge de la main droite. Il y eut un mouvement, presque trop rapide pour qu'on puisse le suivre du regard, puis un bruit sourd de déchirure. Alors qu'un geyser de sang jaillissait de sa gorge, empoissant sa barbe, l'officier lâcha son épée, qui rebondit sur le sol de pierre, puis porta les deux mains à la plaie, par laquelle s'écoulait son fluide vital et sa vie. Matt percuta le tueur dans le dos, et les trois hommes s'écroulèrent en même temps. Ne voyant aucune objection à poignarder un type par derrière, surtout quand le gaillard en question pouvait égorger quelqu'un à main nue, le jeune flambeur porta un premier coup de couteau. Il aurait dû laisser Nalesséan dormir, pensa-t-il, en frappant une deuxième, puis une troisième fois. Le tueur se contorsionna sous Matt. Si impossible que ça paraisse, après ce qu'il venait d'encaisser, il parvint à se dégager, emportant avec lui, dans lui plus précisément, le couteau de Matt. Les yeux fixes et la gorge ensanglantée de Nolethéan, rappelant au jeune homme quel serait son sort s'il faiblissait, il saisit les deux poignées du tueur, une de ses mains glissant sur le sang qui avait coulé sur celle de son adversaire. Le tueur sourit. Avec un couteau planté dans le flanc, il sourit.
« Il veut te voir crever autant qu'il désire sa mort à elle, »
dit-il. Comme si les mains de Matt ne le gênaient absolument pas, il avança les siennes vers la tête de sa proie, la forçant à plier les bras. Matt poussa de toutes ses forces et mit tout son poids dans la balance. Mais il aurait tout aussi bien pu être un gosse affrontant un adulte. Pervers, le tueur prenait son temps, comme si la situation l'amusait. Mais rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Où était donc passée la chance de Matt? Avec l'énergie du désespoir, il poussa une dernière fois, et le médaillon entra en contact avec la joue du tueur. Le résultat fut spectaculaire. Alors que de la fumée s'élevait, en même temps qu'une sorte de bruit de friture, le type hurla comme un cochon qu'on égorge, puis il propulsa Matt loin de lui, utilisant les bras et les jambes. Cette fois, le vol plané entraîna le jeune homme à 10 bons pas de son point de départ. Quand il se releva, à demi sonné, il vit que le tueur se tenait le visage, les mains tremblantes. Une marque rouge vif indiquait l'endroit où le médaillon l'avait touché. Intrigué, Matt toucha la tête de renard et la trouva froide, sans plus. Rien à voir avec ce qui arrivait quand quelqu'un canalisait le pouvoir dans les environs. Le toucher du métal, simplement. Incapable de déterminer la nature de ce tueur, Matt aurait cependant juré qu'il n'était pas humain. Cela dit, entre la brûlure et les 3 coups de couteau, il devait être assez amoché pour que le jeune flambeur parvienne à passer à côté de lui et à atteindre l'escalier. Venger Elaine et Nalesséane aurait été formidable, mais ça ne semblait pas être prévu au programme cette journée. Inutile de compliquer les choses en donnant à quelqu'un une raison de vouloir venger Matt Cotton. Le tueur arracha le couteau de sa plaie et le lança sur Matt, qui le rattrapa au vol d'instinct. Quand il lui apprenait à jongler, ce bon vieux Tom s'était extasié sur sa dextérité, supérieure à tout ce qu'il avait vu, disait-il. Lorsqu'il eut d'un simple coup de poignet, remis le couteau dans le bon sens pour le lancer à son tour, Matt baissa les yeux sur la lame et crut que son cœur allait s'arrêter. Pas une trace de sang. La lame brillait, immaculée. Tout bien pesé, 3 blessures ne suffiraient peut-être pas à ralentir cette créature, quoi qu'elle soit. Matt jeta un coup d'œil derrière lui. Les types étaient en train de sortir de la pièce dont ils avaient forcé la porte. Tous portaient un très étrange butin, plusieurs petits coffres où tonnelaient vermoulus ou cassés, les vestiges d'une chaise, un miroir brisé. Sans nul doute, on avait dû leur dire de tout emporter. Sans accorder la moindre attention à Matt, ils coururent jusqu'à l'autre bout du couloir et s'engouffrèrent dans ce qui devait être un corridor latéral. Il devait y avoir un autre escalier à l'arrière du bâtiment. Avec un peu de chance, Matt pourrait les suivre à distance si... Peut-être que... Près de la porte de la pièce au trésor, Vanin fit un nouvel effort pour se relever et retomba lourdement. Matt ravala un juron. Porter le gros voleur de chevaux allait le ralentir. Mais si sa chance était au rendez-vous... Certes, elle n'avait pas suffi à sauver Elaine. Pourtant... Du coin de l'œil, il vit la fille héritière bouger. Oui, elle porta une main à sa tête. Le tueur en veste grise capta lui aussi ce mouvement. Souriant, il se tourna vers la jeune femme. Avec un soupir, Matt rengaina son couteau, puisqu'il était inutile.
« Tu ne peux pas l'avoir !»
dit-il. Le poids d'une promesse. D'un coup sec, Matt cassa la lanière de cuir du médaillon, puis la brandit, la tête de renard pendant quelque chose comme 10 pouces sous son poing. À la manière d'une fronde, le jeune flambeur la fit tournoyer dans les airs.
« Non, tu ne peux pas l'avoir. C'est moi qui te le dis !»
Matt avança, son arme improvisée tourbillonnant toujours. Le premier pas avait été le plus dur, mais quand on devait tenir une promesse... Le tueur cessa de sourire. Les yeux rivés sur le médaillon, il recula sur la pointe des pieds, entrant dans le halo de lumière qui filtrait de la fenêtre et se reflétait sur la tête de renard. Si la tactique de Matt continuait à fonctionner, il verrait si une chute de 6 niveaux pouvait accomplir ce qu'un couteau ne suffisait pas à faire. Le tueur au visage marqué au fer continua de reculer, faisant parfois mine de lancer une main pour s'emparer du médaillon. Sans crier gare, il fonça sur un côté et s'engouffra dans une pièce. Il referma la porte, sans doute avait-il attendu qu'il y en ait une, et Matt entendit le bruit sec de la barre de sécurité qui se mettait en place. Le jeune homme aurait-il dû en rester là? Probablement, mais sans réfléchir, il flanqua un grand coup de pied dans le battant vermoulu. Sans succès, mais un second assaut eut raison d'un des gonds et de la barre. La porte bascula vers l'intérieur, encore tenue par les gonds survivants. La pièce se révéla moins sombre que prévu. Un peu de la lumière de la fenêtre du couloir, toute proche, y pénétrait et se reflétait sur un miroir triangulaire brisé, appuyé contre le mur du fond. Sans avoir besoin d'entrer, Matt put ainsi voir ce qu'il y avait dans ce réduit. Eh bien, un miroir triangulaire et un fragment de fauteuil. À part la porte principale et un trou de rat à côté du miroir, il n'y avait pas d'issue. Pourtant, le tueur en veste grise n'était plus là.
« Matt !»
appela faiblement Elaine. Pas mécontent de s'éloigner de l'étrange pièce, le jeune homme se précipita vers la fille héritière. En bas, des cris indiquaient que les hostilités ne devaient pas être terminées. Mais Nineveh et les autres allaient devoir se débrouiller sans Matt pour le moment. Quand il s'agenouilla près d'elle, Elaine fit jouer ses mâchoires et grimaça de douleur. Sa robe couverte de poussière et son grotesque chapeau quasiment déplumé, elle avait les cheveux en bataille, comme si on s'en était servi pour la tirer sur le sol.
« Il m'a frappé si fort !»
gémit-elle.
« Je crois que je n'ai rien de cassé, mais... »
Le regard de la fille héritière croisa celui de Matt. Jusque-là, il avait toujours pensé qu'elle le considérait comme un étranger. En cet instant où ça changea, il eut la certitude qu'il ne s'était pas trompé.
« J'ai vu ce que tu as fait, Matt, contre cet homme. Nous aurions tout aussi bien pu être des poules coincées dans une cage avec un renard. Le pouvoir était impuissant. Nos flux fondaient, exactement comme avec ton... »
Elaine baissa les yeux sur le médaillon que tenait toujours Matt. Puis elle prit une profonde inspiration qui eut un effet hautement intéressant sur son décolleté.
« Merci, Matt. Je m'excuse pour tout ce que j'ai pu dire ou penser à ton sujet. »
Et cette fois, ça semblait sincère.
« J'accumule du taux envers toi, décidément. Mais pas question que tu me battes comme plâtre. Un de ces quatre, tu me laisseras te sauver la mise, histoire d'équilibrer les comptes. Je verrai ce que je peux faire. »
Marmonna Matt, en glissant le médaillon dans sa poche. « Du taux ? La battre comme plâtre ?» Incontestablement, cette fille passait beaucoup trop de temps avec Avienda. Quand Matt lui aidait à se relever, Elaine regarda autour d'elle, vit les femmes qui gisaient dans le couloir, s'attarda un moment sur le visage ensanglanté de Vanine et fit la grimace.
« Par la lumière, par le sang et les maudites cendres !»
Malgré la gravité de la situation, Matt sursauta. Pas seulement parce qu'il n'aurait jamais cru entendre ces mots sortir de la bouche d'Elaine. Quand elle les disait, on eût juré qu'elle ne connaissait pas vraiment leur sens, se contentant d'aligner des syllabes. Du coup, il la faisait paraître encore plus jeune qu'elle l'était. Se dégageant du bras de Matt, la fille héritière jeta son chapeau mutilé au loin, puis alla s'agenouiller près de la femme la plus proche, en l'occurrence Réanne, et lui prit la tête entre ses mains. La malheureuse gisait sur le ventre, les bras écartés, comme si on lui avait fait un croche-pied alors qu'elle courait, en direction de la pièce au trésor et de son agresseur, pas vers l'escalier.
« C'est au-delà de mes aptitudes, »
souffla Elaine.
« Où est Nineveh ? Pourquoi n'est-elle pas montée avec toi ?»
Elle appela à tue-tête.
« Nineveh ! Inutile de couiner comme une truie !»
marmonna l'ancienne sage-dame en déboulant dans le couloir. Elle se retourna, lançant dans l'escalier.
« Tiens-la bien, compris ? »
Comme pour ponctuer ses mots, elle agita son chapeau à l'intention de son invisible interlocuteur.
« Surtout, ne la laisse pas s'échapper aussi !»
couina-t-elle comme une truie.
« Sinon je te giflerai tellement que tu entendras des cloches pendant un an !»
Quand elle se tourna de nouveau vers le couloir, Nineveh écarquilla les yeux.
« Que la lumière nous protège !»
s'écria-t-elle, avant de s'agenouiller près de Janira. Un bref contact, puis elle se releva, blanche comme un linge. Matt aurait pu lui dire que cette femme était morte. Mais Nineveh semblait prendre chaque décès comme un affront personnel. Se secouant, elle passa à Tamarla. Cette fois, il semblait y avoir quelque chose à faire. Rien de facile, cependant, car les blessures de la guérisseuse ne paraissaient pas bénignes.
« Que s'est-il passé ici, Matt ?»
demanda Nineveh, sans détourner les yeux de sa patiente. Un ton qui ne trompait pas. Il aurait dû se douter qu'elle lui mettrait tout ça sur le dos.
« Alors, Matt, qu'est-il arrivé ? Vas-tu parler ou dois-je te... »
Le jeune flambeur ne sut jamais de quoi l'ancienne sage-dame entendait le menacer. Bien entendu, l'âne avait suivi Nineveh, arrivant dans le couloir avec Soumeko sur les talons. Dès que la guérisseuse eut jeté un coup d'œil sur le carnage, elle se précipita vers Réanne. Non sans jeter un regard inquiet à Elaine, elle se mit à passer et à repasser les mains au-dessus du corps de Réanne. Nineveh en fut soufflée.
« Que fais-tu donc ?
demanda-t-elle sèchement. Sans cesser de s'occuper de Tamarla, elle jeta des regards perçants à la guérisseuse au visage rond.
« Où as-tu appris ça ?»
Soumeko frémit, mais elle ne s'interrompit pas.
« Pardonne-moi, Aes Sedai. Je sais que je ne devrais pas, mais si je ne fais rien, elle mourra. Je sais qu'il ne m'était pas permis de continuer à... Aes Sedai, je voulais juste apprendre. Pitié !»« Mais non, continue. »
fit Ninévé, assez distraitement. Concentrée sur sa patiente, elle poursuivit pourtant.
« On dirait que tu connais certaines choses que je... Eh bien, tu as une façon très originale de manier les flux. Je parie que beaucoup de sœurs voudront que tu leur enseignes ta méthode. »
À voix basse, l'ancienne sage-dame ajouta.
« Comme ça, elles me ficheront un peu la paix. »
Même si Soumeko ne pouvait pas avoir entendu cette dernière phrase, ce qu'elle avait bel et bien ouï lui coupa le souffle, sans qu'elle cesse de bouger les mains cependant.
« Elaine, »
reprit Ninévé,
« tu veux bien chercher la coupe des vents ? Je crois que cette porte est la bonne. »
De fait, elle désigna la bonne entrée. Matt en resta perplexe, jusqu'à ce qu'il voie sur le seuil deux petits paquets que les pillards avaient dû laisser tomber dans leur fuite.
« Oui, je peux au moins faire ça, »
soupira la fille héritière. Après avoir fait mine de tendre une main à Vanine, toujours à genoux, elle la laissa retomber et franchit le seuil de la pièce. Une petite colonne de poussière en jaillit, suivie par une quinte de toux. Soumeko n'avait pas été la seule à suivre Ninévé et Lan dans l'escalier. Yane était elle aussi dans le couloir, poussant devant elle la sœur noire Hispan Shephar, une main sur sa nuque, et l'autre lui tendant un bras dans le dos. Le visage décomposé, la pauvre guérisseuse devait sans doute craindre d'être écorchée vive pour avoir maltraité une Aes Sedai. En même temps, une inébranlable détermination brillait dans ses yeux. Les sermons de Ninévé avaient parfois cet effet sur les gens. Terrorisée, Hispan avait du mal à tenir sur ses jambes, et elle se serait sûrement écroulée sans le soutien d'Yane. Désormais coupée de la source par un bouclier, elle aurait sûrement préféré être écorchée vive, plutôt que de devoir subir ce qui l'attendait. Des larmes roulant sur ses joues, elle sanglotait en silence. Beslan arriva juste derrière Yane et sa prisonnière. Attristé par la dépouille de Nelsean, il parut plus touché encore par les cadavres de femmes. Arnan et trois bras rouges, Fergin, Gorderan et Metwin, qui avaient combattu avec Ninévé et les autres, émergèrent ensuite de l'escalier. Les vestes d'Arnan et de deux des trois hommes étaient entaillées et tachées de sang. Mais Ninévé avait dû s'occuper d'eux avant de monter, car ils semblaient en pleine forme, physique en tout cas, car le moral ne semblait pas au beau fixe.
« Qu'est-il arrivé à l'arrière du bâtiment ?»
demanda Matt.
« Que la lumière me brûle si je le sais, » répondit Arnan. « Dans le noir, nous sommes tombés sur une bande de costauds armés de couteaux. L'un d'eux était rapide comme un serpent. »
Il haussa les épaules et tapota distraitement la déchirure sur sa veste.
Un type m'a enfoncé sa lame dans le corps. Je ne me souviens de rien d'autre, sinon d'avoir ouvert les yeux sur Ninévé Sedai, accroupi près de moi. Mandair et les autres étaient plus morts que notre méchoui d'hier.
Matt hocha la tête. Un type rapide comme un serpent, et capable de sortir d'une pièce comme un reptile également. Le jeune homme sonda le couloir. Réan et Tamarla s'étaient relevés et tiraient sur le devant de leur robe, bien entendu. Tandis que Vanine, de nouveau sur ses pieds, tentait de voir à l'intérieur de la pièce où Elaine s'exerçait à égrener un chapelet de jurons, sans être plus convaincante que précédemment, semblait-il. Mais c'était difficile à dire, parce qu'elle toussait au milieu. Ninévé se releva et aida Sibella, une blonde maigrichonne, à se remettre debout. Soumeko était toujours en train de s'occuper de Famel, et son intervention semblait en bonne voie de réussir. En revanche, Matt n'aurait plus jamais l'occasion d'admirer la poitrine de Meloré, dont Réan était en train de fermer les yeux et de croiser les bras. Un peu plus loin, Tamarla entreprit de faire la même chose pour Janira. Deux guérisseuses et six bras rouges tués par un homme que le pouvoir n'avait pas pu arrêter.
« J'ai trouvé !»
cria soudain Elaine. Elle sortit de la pièce obscure avec dans les bras un grand objet rond entouré d'un morceau de tissu pourri. Vanine voulut l'en soulager, mais elle refusa. Entièrement couverte de poussière, la digne fille héritière semblait s'être roulée par terre pendant des heures.
« Ninévé, la coupe des vents est à nous !»«
Dans ce cas, »
dit Matt,
« on aurait fichtrement intérêt à filer d'ici. »
Personne ne le contredit. Ninévé et Elaine insistèrent pour que les hommes transforment leur veste en baluchon afin de transporter les détritus qu'elles allaient récupérer dans la pièce. Elles se chargèrent elles-mêmes comme des baudets et firent aussi appel aux guérisseuses. Erehan descendit et sortit pour recruter des hommes, afin de porter leurs morts jusqu'à l'embarcadère. Mais sur le fond, personne ne discutailla. En chemin, Matt se demanda si le Rahad avait déjà été témoin d'une procession si étrange et tellement pressé d'atteindre sa destination.